Alors, si vous voulez vous lever, on va lire aujourd'hui Apocalypse chapitre 11, versets 14 à 19. Apocalypse chapitre 11, versets 14 à 19. Le second malheur est passé. Voici, le troisième malheur vient bientôt. Le septième ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Je vous asseoir. Ok. Ok, il faut. Faut. On me prend une mémoire comme ça. Ok. Aujourd'hui, j'ai intitulé le sermon « L'établissement du royaume final de Dieu ». Alors, comme on a vu dans des leçons précédentes, on avait vu que le passage de ce qu'on vient de terminer, là, qui terminait au verset 13, le passage de 10, chapitre 10, verset 1, allait jusqu'à 11, verset 13. Ça constituait ce qu'on appelait une parenthèse ou un interlude. Quand on essaie d'interpréter les Écritures, et plus particulièrement le livre de l'Apocalypse, c'est une bonne chose qu'on soit conscient de ces choses-là. Parce qu'on s'attend des fois qu'il y a 6 trompettes qui jouent, puis d'un coup, à un moment donné, il y a comme 2 chapitres, on dirait qu'ils ne parlent plus de la même chose. C'est une interlude, c'est une parenthèse. C'est important de savoir pourquoi le Seigneur a permis la parenthèse. Alors, on peut donc affirmer qu'à partir du verset 14 du chapitre 11, on continue ce qui avait été dit dans des passages comme Apocalypse 9, verset 13 à 21. On voit qu'il y a eu un passage, après ça il y a eu une parenthèse, il y a eu un arrêt, et l'arrêt avait une raison d'être. Et si on ne tient pas compte de ça, c'est difficile d'interpréter le livre correctement. Alors on va relire le chapitre 9, versets 13 à 21, et on va voir que vraiment ce qu'on voit dans le verset 14 aujourd'hui, c'est une continuation de la parenthèse. Tu sais, quand vous écrivez, vous mettez une parenthèse, mais ce qui est dans la parenthèse, vous le lisez, mais c'est la suite. Là, on est en train de continuer la suite de la phrase ou du passage qu'on avait vu dans Apocalypse 9. Alors, on relit le passage de manière à voir que c'est vraiment une continuation. Et le sixième ange sonna de la trompette. Voyez-vous, on est rendu au sixième. On est dans le chapitre 9. 10 et 11, on n'a presque pas parlé du septième. C'est là qu'on peut se poser la question, pourquoi pas le septième tout de suite? Parce que c'est là l'interlude. Alors, et le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venait des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au sixième ange qui avait la trompette: délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, afin de tuer la troisième partie des hommes. Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à 200 millions, car j'en entendis le nombre. Or, je vis les chevaux dans la vision, ceux qui étaient assis dessus, avec des cuirasses de couleur de feu, et d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. La troisième partie des hommes fut tuée par ces trois choses, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue, semblable à des serpents, avait des têtes, et par celles-ci, elles faisaient du mal. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces plaies ne se repentirent point des œuvres de leurs mains pour cesser d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs rapines. Alors, quand on a fini le chapitre 9, on serait porté à dire, puisque parmi la sixième trompette, que la septième arriverait de suite. Mais il y a le passage dont on vous dit, à partir de 10:1, chapitre 10, verset 1, aller jusqu'à chapitre 11, verset 13, c'est la fameuse parenthèse. On se souvient qu'il y a trois grands malheurs qui ont été annoncés et que le dernier malheur serait précédé par le son de la septième trompette. La septième trompette, c'est la trompette qui annonce les choses de la fin. C'est la raison pour laquelle j'ai intitulé aujourd'hui « L'établissement du royaume final de Dieu ». On va voir que c'est intéressant ce chapitre-là. Alors, trois grands malheurs avaient été annoncés et que le dernier malheur serait précédé par le son de la trompette. On avait vu ça dans le chapitre 10, les versets 5 à 7. « Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la septième trompette, se ferait entendre sa voix, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. » Alors, il dit, en train de dire, que quand la septième trompette va sonner, le mystère de Dieu va s'accomplir. C'est là qu'on va expliquer un petit peu en quoi ça consistait, le mystère de Dieu. Alors, on se doit de réaliser, quand on lit le passage d'aujourd'hui, que six trompettes ont sonné et que deux grands malheurs ont été accomplis. On avait parlé de trois malheurs, et là, le verset 14 nous dit « Le second malheur est passé. Voici le troisième malheur qui viendra bientôt. » Verset 15 « Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera des siècles, des siècles. » Quand on se souvient de la promesse, il y a un ange qui dit que quand la septième trompette va arriver, elle va sonner, le mystère de Dieu va s'accomplir. Et là, on est en train de lire le verset qui nous dit que le deuxième malheur est arrivé, que le troisième s'en vient et que la septième trompette est sonnée. Donc, il faut s'attendre à ce que le mystère de Dieu va s'accomplir. Alors, ces versets nous apprennent deux choses. Premièrement, que le second malheur est passé, dans le verset 14. Et deuxièmement, que le septième ange sonne la septième et dernière trompette. Les trompettes, c'est quoi? C'est un avertissement. Dieu a envoyé six trompettes. Il y avait des jugements qui accompagnaient chacune des trompettes chaque fois. Et il y a un ange qui a dit, quand la septième trompette va sonner, c'est le dernier avertissement. Là, ça va être la période des jugements. C'est là qu'on va rentrer dans les chapitres où il va y avoir le jugement de la grande prostituée, le jugement de la bête, et toutes ces affaires-là. Très intéressant de voir comment Dieu va accomplir son... Alors, on se doit de comprendre que c'est ici le mystère de Dieu qui s'accomplit. Très intéressant de voir que c'est le mystère de Dieu qui s'accomplit quand la septième trompette sonne. Alors, quand ça dit dans le verset « La proclamation du troisième malheur, le second malheur est passé, voici le troisième malheur qui viendra bientôt. » Le troisième malheur est annoncé comme futur. Il dit, voici le troisième malheur qui viendra bientôt. Quand on arrive au septième, ça veut dire que c'est fini les avertissements. On rentre dans la période de jugement. Alors, le troisième malheur est annoncé comme futur et il est annoncé aussi comme imminent. Quand on dit qu'une chose est imminente, ça veut dire que quelque chose est à la veille d'arriver. Bientôt. Et alors, on serait porté à penser que nous aurions ici une description détaillée des événements du troisième grand malheur, et ce n'est pas le cas. Les Écritures sont pleines comme ça de choses. Des fois, on ne s'arrête pas à réfléchir. Il dit que le mystère de Dieu va s'accomplir quand la septième trompette va sonner. Elle sonnait, on s'attendrait à ce que Dieu nous dise, voici ce qu'est le troisième grand malheur. Mais on assiste plutôt à un éclat de joie dans le ciel. Et c'est vraiment, on va expliquer un petit peu pourquoi le Seigneur met cette partie-là là. Alors, la proclamation par anticipation de l'établissement du royaume final de Dieu. Ça, c'est intéressant de voir ça ici. Dieu permet que Jean voit l'accomplissement final. Autrement dit, c'est un peu comme quelqu'un qui partirait à la guerre, puis qui voudrait montrer à ses troupes qu'on est sûr qu'on va gagner avant de partir. Alors, avant que les malheurs arrivent, avant que les choses s'exécutent, ils veulent nous faire voir l'accomplissement ultime. C'est comme si Dieu voulait ouvrir les yeux, la compréhension des siens au fait que la victoire finale est assurée. Et ils veulent leur montrer comment cette victoire finale-là va s'exécuter, va se manifester. Alors, quand ça dit « Or, le septième ange sonna de la trompette », et de grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis à notre Seigneur et à son Christ. » Les jugements ne sont pas arrivés. Puis il dit que les royaumes du monde sont soumis. On va voir que la soumission va demander beaucoup de jugements qui vont arriver dans le cours des prochains chapitres. Mais actuellement, on dirait qu'il veut juste leur montrer la fin finale, la victoire finale. C'est bizarre parce qu'on serait porté à dire, « Ben, dis-moi, c'est quoi le troisième grand malheur? » Mais il va le dire plus tard. Il ne faut pas s'inquiéter. Il veut montrer qu'à ce stade-ci, il a besoin de comprendre que Dieu va réussir à soumettre les nations. Actuellement, est-ce qu'ils sont soumis les nations à Dieu, au royaume divin, au royaume du Seigneur? Mais non. Ben, en tout cas, Dieu contrôle, mais ils ne sont pas soumis. Ici, il est en train de leur faire voir qu'un jour, parce que ça dit, « Or, le septième ange sonna de la trompette, et de grandes voix se firent entendre dans le ciel, qui disaient, les royaumes du monde, les royaumes du monde. » Là, on pourrait les nommer, on pourrait prendre tous les royaumes qui dirigent politiquement la terre, et ils sont en train de dire que ces royaumes-là, ils sont déjà soumis, alors que les jugements ne sont pas arrivés. Alors, c'est ce qu'on appelle une vision par anticipation. Dieu veut leur faire comprendre la victoire avant même que les événements du jugement soient arrivés. Alors, le Seigneur avait révélé à l'apôtre Jean que lorsque la septième trompette sonnerait, le mystère de Dieu s'accomplirait. Quand le septième ange sonne de la trompette, ça veut donc dire que le royaume de Dieu est instauré. La sonnerie de trompette du septième ange annonce un événement de la plus haute importance, l'instauration du royaume de Dieu. Quand les nations de la terre vont se soumettre à Dieu et à Christ, ça veut dire que Dieu va avoir établi son royaume. Sinon, il ne dira pas... Des grandes voix se firent entendre dans le ciel qui disaient « Les royaumes du monde sont soumis. » Pas « se soumettront », « sont soumis ». Donc, c'est la preuve qu'il est en train de nous montrer un événement par anticipation. Donc, « sont soumis », donc l'instauration du royaume de Dieu. C'est un événement, bien entendu, de la plus haute importance. Et pourquoi le septième, le chiffre 7 des Écritures, plus particulièrement dans l'Apocalypse, il est omniprésent. J'ai jamais compté le nombre de fois que le chiffre 7 est dans l'Apocalypse, mais il est beaucoup de fois. Et ça parle toujours de perfection. Alors, quand le moment de la perfection va arriver, Dieu va avoir établi son royaume, il est en train d'annoncer par anticipation qu'un jour, toutes les nations vont se soumettre à Dieu et vont se soumettre à Christ. Alors, le royaume de Dieu constitue le thème principal du livre saint de Dieu, la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, il en est le fil conducteur. Si vous prenez l'ensemble de la Bible, à partir du début, vous allez jusqu'à la fin, quel est le fil conducteur qui conduit l'ensemble des livres, le thème qui revient continuellement, c'est celui du royaume de Dieu. C'est le thème de Dieu, le thème du fil conducteur de la Bible. Alors, il faut se souvenir que Dieu avait fait une promesse qui dit qu'un jour, les nations de la terre vont être bénies, et Dieu l'avait dit, voilà 4000 ans, qu'un jour ça arriverait. Et là, il est en train de leur dire que c'est arrivé, mais par anticipation. C'est un peu comme on dit actuellement, le Seigneur va revenir, on le sait qu'il va revenir, mais on le dit par anticipation, parce qu'on croit ce qu'il dit. Alors, le pasteur Paulin Bédard a écrit sur l'Apocalypse, et il nous parle du verset 15. Et je trouve que son commentaire était bon, donc je vais vous le donner. Il dit, « Le son de la septième trompette est le signal de l'explosion des jugements qui conduisent au jugement dernier et au règne éternel du Seigneur. Avant que ces jugements soient révélés, leur conséquence est d'abord proclamée. Deux chorales viennent célébrer le règne de Dieu. » Il dit, « Parce que les ennemis du royaume ont été vaincus et jugés, Dieu prend maintenant en main la gouverne totale de toutes choses. Le but que Dieu avait pour le monde est parvenu à son terme. Le grand jour du Seigneur est enfin arrivé, et le véritable roi qui apparaît dans toute sa gloire n'est certainement pas Satan, mais notre Seigneur et son Christ. L'orgueil et l'arrogance du prince de ce monde apparaissent maintenant comme étant complètement vains et futiles. Cette exclamation ne nie pas que Dieu ait toujours été le maître du monde. La souveraineté absolue de Dieu n'a jamais été mise en cause. Le monde adorait de faux dieux et de faux rois. Mais la révolte contre le règne de Dieu a maintenant été détruite. C'est dans ce sens que le royaume du monde est devenu le royaume du vrai Dieu. Nous avons la démonstration que la domination de Dieu et son Christ demeurent et que son royaume n'a pas de fin. Alors, dans la dernière partie du verset 15, on a aussi quelque chose qui nous est dit, que cette soumission finale et définitive des royaumes va être, à partir du moment où Dieu la déclare, pour des siècles, des siècles. C'est vraiment, il est en train de leur montrer la victoire finale, mais qui va être permanente. Après que les jugements vont avoir arrivé, les nations vont se soumettre et la victoire et le règne de Dieu et de Christ va être pour des siècles et des siècles comme ceci. Et il règnera au siècle des siècles. Dieu le Père et Dieu le Fils régneront ensemble pour l'éternité. Très intéressant de relier ce verset-là à 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 24, qui nous dit « Après cela viendra la fin, quand il remettra le royaume de Dieu à Dieu le Père, après avoir détruit tout empire, toute domination et toute puissance. Il est en train de nous parler de Christ qu'un jour va remettre au Père le royaume établi, le royaume de Dieu établi sur terre. Toutes les nations vont être soumises au Seigneur. Versets 16 à 18 maintenant. Et les 24 anciens, alors on voit qu'il y a comme une proclamation que les nations vont se soumettre, mais il veut nous donner des explications. Et les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu en disant, « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et ce que tu es entré dans ton règne. Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. » Très intéressant. Autrement dit, il est en train de parler de l'inauguration de la phase finale. Vraiment de la phase finale où Dieu va récompenser les saints et il va punir ceux qui détruisent la terre. Alors, le dictionnaire Robert, parce que le deuxième point, c'est le royaume final de Dieu projeté. Alors, le dictionnaire Robert définit de façon suivante le mot « projeté ». Ça veut dire « former l'idée de ce que l'on veut faire et les moyens pour y parvenir ». Dieu est en train de dire « la victoire finale est assurée ». Et il va nous montrer plus tard, après cette explosion de joie dans le ciel-là, plus tard, quels moyens il va utiliser pour soumettre les nations. On va voir qu'il y a des jugements extrêmement sévères qui s'en viennent. Ça ici, là, le pasteur Herman Oxema me sert beaucoup de son commentaire parce qu'il est excellent. Fait la remarque suivante sur ce passage. Il dit « La vision est proleptique ». Alors, quand tu lis ça dans un commentaire, « proleptique », c'est quoi sa mort en hiver sur « proleptique » Alors, il faut que tu sortes ton dictionnaire dans ce temps-là. Si tu ne sors pas ton dictionnaire, tu es en train de lire quelque chose que tu ne comprends pas, puis tu passes par-dessus. Mais si tu passes par-dessus, il y a quelque chose que tu vas manquer aussi. Là. Alors, le mot proleptique veut signifier une vision par anticipation. Le Seigneur permet qu'avant d'envoyer ses jugements pour soumettre la terre, il veut faire voir aux siens la victoire assurée. Sûre, certaine. C'est pour ça que tout le ciel est content, puis ils disent, la terre est soumise, puis tous les royaumes de la terre. Alors, c'est quelque chose d'anticipé. Alors, le mot proleptique veut signifier une vision par anticipation. En d'autres mots, il voit ce qui est encore dans l'avenir de façon claire et sachant que la vision se réalisera très certainement. C'est l'idée que Dieu veut montrer à ses serviteurs, le résultat final, avant que les événements ne se soient accomplis, mais étant absolument sûr, parce que décrété. Je ne sais pas si vous me suivez, j'espère que oui. Alors il dit, j'ai pris son passage qui est écrit dans son livre, pour parler d'une vision proleptique, et je l'ai traduit dans Google, c'est... Google, je n'en reviens pas de voir comment ça fait un bon travail des fois. Alors, voici la traduction du passage qui dit que c'est un passage proleptique. Je ne veux pas vous ennuyer avec des grands termes, mais c'est important de saisir qu'est-ce qui se passe là. Sinon, on passe par-dessus le passage et on ne comprend pas. Il dit « Maintenant, dans notre passage, nous avons l'image de l'effet de la septième trompette, mais pas en détail. » On ne parle pas ici de la chute de Babylone, de la puissante tentative de l'Antichrist pour prendre le contrôle, de la défaite finale du diable. Nous n'avons pas non plus une description réelle de la résurrection des morts et du jugement, de la descente du ciel, de la Jérusalem céleste et de la réalisation du royaume. Tout cela sera décrit dans le futur. Nous rencontrerons donc à nouveau la septième trompette lorsque se dissoudra dans les sept coupes célestes de la terre. Lorsqu'elle se dissoudra. Mais dans notre portion, dans notre passage, nous avons une vision proleptique révélant en quelques phrases tout l'effet de cette septième trompette. Une déclaration générale est donnée de l'effet de cette trompette du ciel. Alors, on reprend ce qu'on a dit tantôt. Dieu veut que les gens comprennent à ce moment-ci, avant que les choses qu'on vient de nommer, là. La chute de Babylone n'est pas arrivée. La tentative de prendre le contrôle par l'Antichrist n'est pas arrivée. La défaite finale du diable n'est pas arrivée. La résurrection des morts et le jugement n'est pas arrivée. La descente de la Jérusalem céleste et la réalisation complète du royaume n'est pas arrivée. Mais il veut qu'on voit l'effet de la septième trompette. Il veut qu'on la voie tout de suite. C'est un peu comme quelqu'un qui part en guerre, puis que le général viendrait voir ses hommes, puis viendrait les encourager de la certitude que la guerre va être gagnée, mais avant que tu mènes le combat. C'est ça, une vision proleptique. Il permet que les siens voient le résultat final avant que tous les événements qui sont nécessaires à la réalisation soient arrivés. Et on voit dans le verset 16 quel effet que ça a sur les gens qui sont dans le ciel. Les 24 anciens, c'est les représentants de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament des croyants. Alors, il dit, les 24 anciens qui sont assis sur leur trône devant Dieu se prosternèrent sur leur face et adorèrent Dieu. Les 24 anciens se soumettent entièrement à Dieu. Ils voient le résultat final et eux, ça a pour effet de les amener en adoration. Ils se prosternent sur leur face et ils adorent Dieu. Ils imitent vraiment à la perfection leur modèle qui est Jésus-Christ, qui a toujours démontré une obéissance totale à son Père. Et maintenant, on va voir que dans le verset 17, il va leur exprimer de la gratitude. Parce que là, il adore, mais il parle aussi en même temps dans le verset 17, en disant, rendre grâce, c'est quoi? C'est pour remercier. En disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était et qui sera, de ce que tu as pris en main ta grande puissance et de ce que tu es entré dans ton règne. Est-ce que vous le voyez que le règne est futur? C'est très important de le voir que le règne est futur et qu'il leur fait voir la victoire finale avant même que les gestes nécessaires pour en arriver là soient arrivés. Alors, les personnes en présence de Dieu louent le Seigneur et ils précisent leur raison de le faire. Des actions de grâce, des remerciements. Ils font voir la fin ultime. Et qu'est-ce que les 24 anciens font? Ils remercient le Seigneur. Ils remercient de sa souveraineté absolue. Pour que tu prennes le compte quand il dit le Tout-Puissant, de ce que tu as pris en main, ta grande puissance, et de ce que tu es entré dans ton règne. Il est en train de louer le Seigneur pour sa souveraineté d'arriver à établir ce qu'il avait promis de toute éternité. Pas de toute éternité, mais depuis la Genèse qu'il avait promis le Messie. Et il lui parle aussi de la puissance infinie de Dieu, quand il dit qu'il a pris en main ta grande puissance, et aussi quand il lui dit par les mots « qui est, qui était et qui sera », on est en train de parler de l'éternité de Dieu. Il était, il est, il sera. Alors, il est en train de parler des louanges à Dieu où on vient souligner certains attributs du Seigneur dans la réalisation de l'établissement de son royaume. Et on a aussi l'idée de sa fidélité dans l'exécution de ses promesses, parce qu'il dit « tu as pris en main ». et aussi la sagesse et la perfection dans l'établissement de son royaume lorsqu'il dit « Tu es entré dans ton règne ». Très intéressant. Dans le verset 18, il vient, les mêmes personnages célestes viennent d'expliquer quelque chose d'important. Les nations se sont irritées. Si on regarde l'histoire du monde depuis le début à venir jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit si ce n'est pas de l'irritation, de la désobéissance, de la rébellion envers tout ce que Dieu veut? Ils font exactement le contraire. Mais il dit, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts. Donc, est-ce qu'ici on est en train de parler de la proximité du jugement final? Il est en train de parler que le jugement final s'en vient. Juger les morts, ça va arriver quand? Au jugement dernier. Parce qu'il dit, ainsi que le temps de juger les morts, les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Donc, il y a deux choses qui se produisent. La rétribution des méchants par le jugement final, où Dieu va regarder l'ensemble de tous les péchés d'une personne, ils ne se sont pas repentis, et Dieu va les juger pour l'ensemble de leurs péchés, sans exception. Et on sait où ils vont aller, s'ils n'ont pas cru au Seigneur, ils vont aller en enfer pour l'éternité. Alors le temps de juger les morts approche, et en même temps, il y a un autre temps qui approche en même temps, celui de récompenser les croyants, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom. Et la phrase qu'on tient pas, peut-être pas assez compte, c'est « petits et grands ». Si vous regardez l'ensemble de l'histoire de l'Église, vous allez voir qu'il y a des petits serviteurs qui ont fait des choses humbles, petites. Il y en a des très grands, pour vous nommer des noms, là. Très, très grands. Mais il dit que le temps où on va être récompensé, que tu sois un petit, que tu n'as pas fait grand-chose pour le Seigneur, mais tu vas être récompensé quand même. Puis les grands, bien le Seigneur n'oubliera aucune de leurs actions, aucune des choses qu'ils ont faites pour faire avancer le royaume. Alors ici, il y a deux choses qu'il est en train de dire. Il loue le Seigneur de ce qu'il prend par sa puissance, possession de son royaume, et qu'il, le temps, il y a deux choses qui sont arrivées. Le temps de juger les méchants, leurs péchés, et le temps de récompenser les croyants est arrivé, petits et grands. Nous autres, on est là-dedans, là. On me considère comme un petit, je n'ai pas de problème avec ça. Mais Seigneur, tu vas me récompenser pour ce que j'ai fait. Peu importe, si j'ai fait des choses de bien, le Seigneur, lui, il va regarder l'ensemble de ce qu'on a fait. Et il va nous juger avec une perfection, là. Quand on est jugé par les hommes, disons que vous nous jugez, là, pour quelque raison que ce soit, là, que vous me jugez, ben, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance dans ma vie. Des fois, ça peut me faire mal, mais ça n'a pas beaucoup d'importance dans ma vie. Pourquoi? Parce que je sais qu'il n'y a que le Seigneur qui connaît mes motifs, qui connaît mes raisons intérieures de faire les choses, et que seul son jugement compte, les jugements des hommes. Ça peut faire plaisir ou ça peut blesser, mais c'est pas si important que ça. C'est quand le Seigneur va regarder les choses avec une objectivité parfaite, il va savoir pour qu'est-ce que tu as fait, premièrement, pourquoi tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait pour sa gloire ou pour te péter les bretelles. Le Seigneur va te juger à la perfection pour l'ensemble de toutes tes œuvres. Et ici, on dit, le moment est arrivé de récompenser tous les saints, les petits et les grands. Donc, là-dedans, il faut se voir, nous. Le Seigneur va nous récompenser, si on est des croyants. Parce que ça se peut presque pas que quelqu'un meure une vie de croyant puis qu'il ait fait absolument rien pour le Seigneur. C'est presque pas possible. À part de celui qui est mort sur la croix, là, puis qu'il a dit, là, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mais en général, les chrétiens ont eu quelques années de vie, de marche chrétienne, et c'est ça que le Seigneur va regarder, et les petits et les grands vont être jugés à la perfection pour toutes les œuvres qu'on a faites. Mais aussi, il est en train de dire que les méchants, eux, vont être jugés pour leurs péchés. Et le temps du jugement approche, ce qu'il dit. Ainsi que le temps de juger les morts. Chose intéressante que j'ai trouvée sur un site web où il parle de la destruction de ceux qui saccagent la terre, de ceux qui détruisent la terre dans le texte. Ça dit, les nations se sont irritées, mais la colère est venue, ainsi que le temps de juger les morts et de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Autrement dit, de juger ceux qui saccagent la terre actuellement. Et j'ai trouvé description qui parle de saccage de la terre très intéressante. Je vous la partage. Il dit, le moment de l'intervention divine est arrivé. Ta colère est venue. Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. D'autres versions disent qu'il va saccager ceux qui saccagent la terre et qu'il va détruire ceux qui corrompent la terre. Cette destruction, saccage, corruption concerne la planète Terre elle-même qui est polluée, exploitée, ravagée, mais aussi ses habitants qui en subissent les conséquences. Par les dégâts causés par l'avidité de l'homme, citons la déforestation, la disparition de nombreuses espèces animales et végétales, la pollution des sols et des cours d'eau par les déchets et les pesticides, de l'air par les fumées des moteurs et des usines, l'épuisement des ressources naturelles, la surpêche, le braconnage, la maltraitance des animaux servant de nourriture. La destruction de la terre concerne aussi ses habitants qui sont victimes de la violence et de l'avidité de l'homme. Nous sommes en 2020 et les humains sont encore victimes de guerres, de famines. Plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, et fort probablement plus élevé que ça. De catastrophes écologiques, de pauvreté, d'injustice, de maladies dues à la pollution du sol, de l'air et de l'eau. Les gens qui répètent « Si Dieu existe, pourquoi ne fait-il rien? » pourront être satisfaits quand ils vont voir comment ils vont être jugés sévèrement. Détruire ceux qui détruisent la terre. Il dit que le moment est arrivé de faire cela. Alors, tous ceux qui, sur la terre, à quelque part, ont une main dans les décisions de toutes ces choses-là qu'on vient de lire, pollution des sols, pollution des eaux, de l'air, épuisement des ressources, surpêche, braconnage, maltraitance des animaux, tout ça, là, il y en a qui ont pris des décisions là-dedans, sur la terre. Ben, eux, ils vont être jugés, c'est eux que le Seigneur considère comme étant des personnes qui détruisent la terre, et en détruisant la terre, non seulement ils détruisent la création de Dieu, mais ils font subir aux humains les choses qui sont des conséquences de cela. Alors, on voit vraiment dans le verset 18 qu'il y a deux aspects de la rétribution. Il y a la récompense des croyants et la punition des incroyants qui sont des destructeurs de la terre. Et dans les deux cas, c'est les petits et les grands. Très intéressant de voir que si on en fait de la pollution, nous, on est peut-être des petits pollueurs, mais on en est quand même. Alors, quelque part, il faut se souvenir de cela. Ce qu'on va faire, on va arrêter là pour aujourd'hui et on terminera cette leçon-là la semaine prochaine.